L'évangile pour le couple. L'évangile pour le couple. Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Alors Maud, nous continuons ce chemin avec l'Esprit Saint. Cette série de 4 émissions, on en est à la 3e. Où là nous allons, après avoir passé la dernière émission sur l'effet de libération de l'Esprit Saint en nos vies, nous allons essayer de discerner aujourd'hui comment l'Esprit Saint opère dans nos vies. Quel chemin il se fraye dans nos vies personnelles et conjugales. Et pour cela, nous allons essayer d'écouter cet évangile sur la vigne. Maud, tu veux nous le lire ?
Voilà, dans Saint Jean, au chapitre 15. « Je suis la vigne véritable, et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, pour qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai fait entendre. Demeurez en moi, comme moi en vous. » De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire.
Voilà, c'est une parole très forte, une parole aussi exigeante, mais qui nous donne tellement de clés pour comprendre les éléments de la croissance à un niveau spirituel. Si nous voulons rentrer dans la vie chrétienne, expérimenter le Christ dans nos vies personnelles et conjugales, on ne doit pas s'effrayer des différents obstacles du travail de conversion, d'émondage, de purification que le Seigneur doit opérer et que l'Esprit Saint doit opérer dans nos vies. Nous sommes habités par le péché et donc il doit y avoir un travail de conversion. C'est absolument indispensable. On n'est pas dans le New Age. C'est un travail de conversion. Notre foi nous fait dire, nous croyons que vraiment un certain mal habite en nous et qu'il faut pouvoir convertir ce mal, l'extraire. Et c'est un travail, effectivement, qui est un travail de combat. C'est pour ça que il est dit, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra pour vous, une force. Parce qu'il nous faut de la force pour mener ce combat, Maud.
Voilà, on n'est pas dans le cocooning un peu gentil. La foi est quelque part un peu virile et nous oblige aussi à avancer sans illusion. On n'est pas là pour se laisser modeler par l'esprit. Ça veut dire vraiment qu'on est conformé progressivement au Christ. Le Christ, il est quand même passé par, je dirais, l'offrande suprême. Donc l'histoire du Christ et de la foi chrétienne, c'est pas une histoire gentillette. C'est qu'on sait qu'il y a un combat sérieux.
Je peux dire que c'est pas gentil. Hein. D'abord, jamais tu portes pas de fruits, tu pars au feu. Et si jamais tu portes du fruit, eh ben t'es émondé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se laisser tailler, émonder, purifier, etc. C'est toute l'image de la vigne qui effectivement va apporter du fruit, mais dans la mesure où vraiment elle est suivie, nourrie, taillée, traitée, etc., etc.
Voilà, donc on peut repérer un peu ces trois étapes justement du travail de l'esprit en nous, que sont d'abord l'émondage et puis après l'irrigation pour que la vigne puisse, dans un troisième temps, porter du fruit. Donc on va reprendre un peu ces trois étapes pour que nous comprenions comment l'Esprit Saint agit dans nos cœurs.
Alors Maud, d'abord le travail d'émondage. Et là je pense que l'enseignement des apôtres est très précis sur cette question. Ce travail de l'Esprit Saint, on peut peut-être rapporter quelques versets de la parole, Maud.
Oui, si vous vivez par l'Esprit, vous faites mourir votre comportement charnel. Renoncez à votre existence passée, vivez en enfant de lumière. La chair s'oppose à l'esprit, l'esprit à la chair. On pourrait citer énormément de paroles, et notamment dans les épîtres de Paul, qui font référence à ce combat de cette lutte entre la chair et l'esprit, ce qu'il appelle la chair et l'esprit, c'est-à-dire la chair, le corps de péché, notre épaisseur pécheresse, contre notre être transfiguré par le Christ et renouvelé, et qui lui est appelé à la lumière.
Voilà, et c'est là où on voit bien, en reprenant les thèmes que nous avons abordés la dernière fois, là où le Christ vient nous libérer, vient nous guérir, et bien effectivement, ce travail de l'Esprit-Saint vient pénétrer notre intelligence pour justement saisir au fur et à mesure la vérité tout entière qui est le Christ et qui habite dans le Christ. C'est le seul sauveur, dira saint Paul. Et donc, par rapport à ça, il nous faut, au fur et à mesure, être émondés de notre orgueil, qui doit de plus en plus disparaître et rentrer dans une humilité pour que les ténèbres et le mensonge se dissipent, ainsi que la confusion ou l'hypocrisie qui souvent habite nos cœurs quand nous n'accueillons pas cette vérité, et qu'au fur et à mesure, nous puissions accueillir cette foi dans sa plénitude. La révélation est libération. Le Christ le dit très clairement au niveau de la parole. Voilà, déjà vous êtes purs grâce à la parole. La parole du Christ vient purifier notre vie, vient purifier notre intelligence. C'est elle qui porte. Nous recevons par la parole la vérité. Elle vient de l'extérieur par la prédication du Christ et la prédication de l'Église.
Oui, l'Esprit-Saint vient aussi purifier notre amour pour que nous rentrions dans un amour gratuit, oblatif, et qui sort de notre petit égoïsme, de notre introversion, de tout ce qui fait qu'on passe notre temps à nous occuper de notre petit problème à nous, sans être tourné vers les autres. Il vient aussi par l'esprit canaliser, orienter nos émotions, en faire quelque chose de positif, de bon pour nos frères. Et puis il vient, comme on avait dit tout à l'heure, Alex, réunifier nos corps, c'est-à-dire nous donner de rentrer dans une harmonie pour que notre corps soit un instrument au service du royaume.
Voilà, et donc c'est les trois chemins, les trois grandes clés, les trois grands sécateurs, je ne sais pas comment on peut dire, en tout cas les outils de cet émondage. Alors que propose l'Église et que propose le Seigneur, c'est la prière avec persévérance, car les guérisons intérieures se fait progressivement. Il y a le sacrement du pardon, sacrement de pénitence ou réconciliation, qui est cette rencontre avec le berger qui prend soin de sa brebis pour la conduire à la parfaite santé. C'est un sacrement de guérison et de découverte et d'expérience de la miséricorde du Père. Et puis aussi, ce sont les événements de notre vie, échecs, séparations, etc., où l'Esprit-Saint vient aussi nous ouvrir nos yeux sur nos pauvretés et nous fait saisir le sens, nous, au travers des événements et des difficultés de notre vie, voilà, de nous permettre de nous recentrer sur l'essentiel, de hiérarchiser ce qui est l'essentiel de notre vie.
Voilà, on peut dire que dans la vie de couple, c'est un sacrément gros sécateur, celui-là, parce que des événements dans notre vie qui viennent nous émonder, on en a en permanence, et en particulier entre nous, avec les événements du travail, des enfants, de la scolarité, toujours quelque chose qui ne va pas comme il faudrait, du matériel, on a tout à gérer, et voilà que le sécateur se met en route pour nous demander justement de bien regarder où est l'œuvre de l'esprit à travers ces événements et qu'est-ce qu'il nous enseigne.
Il faut aborder aussi la deuxième étape de ce chemin de l'Esprit-Saint en nous, c'est l'irrigation, c'est la nourriture de notre vie. Et là, nous avons trois chemins fondamentaux de cette nourriture, qui est la parole de Dieu, qui est le pain de vie qui nous est donné, notamment toute l'Eucharistie. Et puis il y a aussi l'expérience de l'amour, et notamment en couple, l'expérience de l'amour conjugal, qui est un chemin, qui est une nourriture.
Ah oui, absolument, parce que c'est bien d'avoir un sécateur qui émonde, mais s'il n'y a pas cette nourriture quotidienne de l'arbre, qui est fournie justement par ces trois sources d'amour, l'amour qui nous est transmis par la parole, l'amour qui nous est transmis par le corps de Jésus qui se livre dans le pain, et puis l'amour qui nous est transmis par notre conjoint et plus largement notre entourage, alors à ce moment-là, l'arbre se dessèche et ne peut pas parvenir à toute cette libération, à cette guérison dont nous parlons depuis le début. Nous avons besoin d'être, si je puis dire, bercés dans un univers d'amour pour arriver à croître en étant progressivement émondé. Voilà, tout ça, ça ne se fait pas dans une solitude et un désert horrible, ça se fait entouré d'amour et en particulier de la miséricorde du Père.
Voilà, et je crois que cette miséricorde du Père qui vient nourrir notre vie, qui vient à la fois émonder, purifier, il vient aussi nourrir notre vie. L'amour est une nourriture, c'est pas quelque chose qui se disperse, mais au contraire, plus on rentre dans l'expérience de l'amour au quotidien, dans notre vie conjugale, dans notre vie avec nos enfants, etc., plus effectivement on est rempli, on est nourri par cet amour. Et je crois qu'il faut vraiment bien comprendre que nous avons à nous nourrir, pas simplement, enfin, spirituellement, nous avons à nous nourrir, bien sûr, de la parole de Dieu, de la prière, etc., mais qui aussi nous avons à nourrir de l'expérience de l'amour au quotidien. Et nous avons à nous aimer. Nous voulons guérir, alors aimons-nous en tant qu'hommes et femmes, en tant qu'époux et épouses. Oui. C'est notre plus grand, je dirais, médicament. Notre guérison,
notre remède
vient par cette expérience de l'amour. Nous avons du mal, nous avons des difficultés. Alors vraiment, rentrons dans cette expérience plus intense de l'amour l'un pour l'autre, de l'affection l'un pour l'autre. Et ça sera aussi un chemin de guérison et c'est aussi un chemin de bénédiction du Seigneur. Après avoir abordé le travail de l'Esprit-Saint qui nous conduit à un travail d'émondage de nos propres vies, de purification, et aussi un travail de nourriture et d'irrigation de notre propre vie, nous pouvons à ce moment-là saisir le chemin de l'Esprit par ses fruits qui sont essentiels. On a souvent dit, et on le répète ici, que l'Esprit-Saint, on ne le voit pas, on voit ses effets. Et donc, il nous est important pour discerner si effectivement l'Esprit passe dans notre vie, fait fructifier nos vies, de pouvoir discerner ces différentes fleurs, fruits, etc. Voilà.
Voilà. Et donc, un des premiers fruits dont on va parler, c'est celui de l'intimité avec Jésus, je veux dire de la proximité avec Jésus. L'Esprit Saint nous rapproche du Christ et nous configure au Christ.
C'est là où c'est l'évangile que nous avons lu au début de cette émission, où le chrétien doit être branché sur la vigne, sur le cep, qu'est le Christ lui-même. Donc, le premier signe de la vie dans l'Esprit, c'est cette intimité avec Jésus. Pas simplement cette adhésion à la doctrine, à la vérité du Christ, mais cette intimité, cet amour avec lui.
Voilà, et d'avoir le sentiment de vivre aussi de la vie du Christ, d'être proche, d'avoir cette sève qui coule dans nos veines, qui est la sève de l'amour même du Christ. Et ça, c'est vraiment tout le chapitre 17 de Jean qu'on pourrait relire avec « Demeurez en moi comme je demeure en vous », etc. Mais c'est la condition de cette proximité, se demeurer avec, c'est déjà le premier fruit de la présence de l'Esprit-Saint.
Voilà, avec... Sur cette question, l'injonction de Paul aux Philippiens, ayez en vous les sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Voilà. Nous devons rentrer dans l'expérience des sentiments du Christ, des sentiments, pas simplement de la parole, de la vérité, des sentiments intérieurs au Christ. C'est très fort et nous devons vivre cette intimité. Rappelez-vous, rappelons-nous, cette intimité, ces sentiments, mais extraordinaires, d'intimité, d'amour de Jésus avec son Père. Nous devons rentrer dans cette expérience-là avec lui et notamment et le faire fructifier particulièrement avec notre conjoint. Et Maud, c'est le deuxième thème, c'est l'amour.
C'est l'amour.
Le fruit, c'est l'amour.
Oui.
Celui qui, dans lequel l'esprit habite, mais il doit être dilaté d'amour, sinon il y a un problème quelque part.
Voilà, quand on sort, si je puis dire, d'un moment d'intimité, de prière avec le Christ et l'esprit, on doit être complètement rempli d'amour et renouvelé dans son amour de l'autre, avec une joie profonde. D'ailleurs, les enfants ne s'y trompent pas, puisque souvent ils nous envoient à la prière pour quand ils sentent que notre amour s'affadit ou que nous sommes un peu irrités l'un contre l'autre. Ils savent très bien que c'est en ce lieu-là, c'est en contact avec le Christ et l'Esprit, que nous renouvelons notre amour et notre capacité à aimer. Et nous allons souvent être surpris nous-mêmes par la profondeur de l'amour que l'on peut déployer pour l'autre alors qu'on s'en sentait particulièrement incapable.
Voilà, et d'ailleurs c'est quelque chose c'est assez caractéristique pour des couples qui au bout de quelques années de mariage découvrent ou redécouvrent la vie dans l'esprit, la vie de la foi, la dilatation, etc. Bah, très souvent ça les rapproche énormément et il y a un, deux ou trois enfants qui viennent derrière après ces étapes-là. Ça montre bien combien ça les a rapprochés et ça a dilaté en eux leur amour, leur incarnation. Et justement, ça qui est très important, c'est que l'Esprit-Saint ne nous a pas fait décoller dans le ciel. Il nous a justement réincarné dans la vie, réincarné dans notre relation conjugale. Comme quoi, ceux qui disent « Ah ouais, mais la vie spirituelle, ça vous désincarne complètement, la vie conjugale. » Pas du tout, c'est le contraire. Au contraire, ça te conduit à l'expérience de l'amour, à l'expérience de l'incarnation. C'est pas dilatant, ça, c'est pas une bonne nouvelle.
Ça nous fait rentrer dans une expérience de la surabondance de l'amour, dont le texte le plus symptomatique chez Jean est le lavement des pieds, qui est justement cet acte que Jésus pose avec une humilité extraordinaire et qui à la fois est dans cette notion de service. C'est-à-dire que disserter sur l'amour, ça va bien, mais il faut quand même prendre son tablier, retrousser ses manches et passer à l'action.
Alors, il y a un point, il y a un fruit de l'esprit, Maud, sur lequel on va insister, parce que souvent c'est pas tellement dit, c'est la question de la joie. Et la question de l'Esprit Saint qui vient faire fructifier en nous le salut, il nous conduit à la joie, à la joie. Dans ce monde qui est souvent triste, qui est tellement habité par cette tristesse, il n'y a qu'à voir les gens dans leur voiture, dans le métro, etc. etc. Les gens sont tristes. Grave. Bon, le Seigneur, par son Esprit Saint, si nous nous faisons l'expérience de son amour, nous conduit à la joie. Et alors là, c'est pas un sentiment superficiel, je veux dire, c'en est pétri. Alors là, on vous a sorti, cinq ou six versets de l'Évangile et au moins autant des Actes, pour bien vous montrer que cette expérience chrétienne conduit fondamentalement à un sentiment de joie. Maude.
Oui, et puis une joie profonde, hein, qui n'est pas une joie, je dirais, superficielle. Donc, on peut parler de l'évangile, par exemple, de Luc.
Après l'ascension.
Après l'ascension, voilà, ils retournèrent à Jérusalem plein de joie.
Plein de joie, c'est pas... plein de joie, plein, ça déborde.
Et ils étaient constamment en train de louer Dieu. Donc la joie pousse à la louange, et la louange, c'est rendre gloire à Dieu pour ce qu'il est, tout simplement ce qu'il est.
Et pour ce qu'il est, ce qu'il fait, voilà. Dans nos vies, c'est une explosion, ça déborde.
Voilà, donc on est rentré dans un amour qui va nous pousser à poser un regard positif aussi sur ce que nous vivons. On peut citer aussi saint Jean, l'ami de l'époux est ravi de joie au son de sa voix. Entendre le Christ et la voix de l'époux, ça fait bondir de joie intérieurement, comme saint Jean-Baptiste avait bondi dans le sein de sa mère.
Voilà, et je dis tout cela afin qu'ils aient la plénitude de ma joie, la plénitude, pas ma joie, la plénitude de ma joie. Ravi de joie, plénitude, plein de joie, c'est le débordement. Et en plus le Christ dit, c'est le don que vous ayez reçu cette joie et ma joie, et personne ne pourra vous l'ôter, dit-il dans l'évangile de Jean au chapitre 16, verset 23. Personne ne pourra vous ôter votre joie. Donc ça c'est un don, mais immense, immense, même si même ceux qui ne sont pas croyants, ils ont envie de goûter une joie profondément intense, mais qu'ils accueillent le Christ dans leur vie. Parce que aucune personne, aucune réalité, aucun don, aucune richesse ne peut donner cette joie que le Christ peut donner, que l'Esprit peut donner.
Évidemment, on pourrait prendre beaucoup de temps pour sortir toutes les fois où on parle de la joie dans les Écritures, mais en tout cas, on en a retenu quelques-unes aussi dans les Actes des Apôtres.
Dans les Épîtres, oui.
Voilà, dans les Épîtres, rien que des gestes simples se font dans la joie. Ils prennent leur nourriture avec joie. Voilà, toutes les choses de la vie
simples, etc.
Sont remplies par la joie, et qui est aussi le signe de la communion des frères et du plaisir d'être ensemble.
Voilà, et puis même au travers des épreuves, même les épreuves n'enlèvent pas cette joie. Après avoir débattu, est-il dit dans Actes 5, les apôtres sortirent pleins de joie. Pas avec de la joie, plein de joie. Ça veut dire que même les épreuves nous conduisent, si nous sommes dans l'Esprit du Seigneur, nous fait durer dans cette expérience de la joie du Seigneur.
Voilà, c'est repris un peu plus loin. Vous êtes mis à nous imiter, nous et le Seigneur, en accueillant sa parole, parmi les tribulations, avec la joie de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que les tribulations n'enlèvent pas la joie. Les tribulations, au contraire, vont être comme, je dirais, comme le négatif qui manifeste que la joie est encore plus surnaturelle.
Voilà. Alors, comme nous avons en plus la tête dure, enfin, Alex et Maud les premiers, puis peut-être aussi un peu ceux qui nous écoutent, Paul le savait bien, et d'ailleurs, il fait nous le martèle, hein, et aux Philippiens, il dit, réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur, je le dis encore, je vous en remets une couche, réjouissez-vous, hein. On vous renvoie à Philippiens, chapitre 4, verset 4, je vous le redis encore, réjouissez-vous. Parce que c'est le don du Seigneur, parce que c'est la libération, il faut y croire à des moments, c'est vrai qu'on... Tout ça, finalement, ça rejoint aussi, Maud, toute la question de la foi. Voilà. Je crois qu'on a assez insisté sur la question de la joie.
Oui, alors le deuxième fruit qui est l'autre fruit qui est le plus symptomatique, c'est la paix des profondeurs dont on a déjà parlé, mais c'est la paix qui est donnée par Dieu. Cette paix qui ne vient pas du monde, mais que moi je vous donne. Et c'est tellement important qu'à chaque fois qu'on va recevoir l'Eucharistie, nous réentendons ces paroles du Christ. Voici ma paix que je vous donne, qui n'est pas celle du monde.
Voilà, je vous laisse ma paix, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble, ni ne s'effraie. Et il dit à un autre moment, il y aura beaucoup de tribulations, etc. Mais même avec toutes ces tribulations, ne vous effrayez pas. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et ce n'est pas une paix humaine. C'est lui le Christ qui est notre paix, dit Paul aux Éphésiens. C'est lui le Christ, notre paix. C'est pas une paix simplement à construire d'un moment à l'intérieur, par notre méditation transcendantale, hein, ou par... voilà. Même si jamais ce sont des exercices qui peuvent être utiles d'une certaine manière, mais il faut vraiment rentrer dans la foi chrétienne. C'est le Christ qui donne la paix. C'est le Christ qui donne la paix dans nos couples. C'est pour ça qu'il faut l'invoquer, c'est pour ça qu'il faut le prier, c'est pour ça qu'il faut vivre avec lui et habiter avec lui.
Alors il y a un très beau texte dans Galates, au chapitre 5, vous pouvez aller relire, où on donne toutes, je dirais, les conséquences de la présence de l'Esprit. La paix, la joie, la patience, la bonté, la douceur, la bienveillance, la confiance dans les autres, la maîtrise de soi, etc. Toutes sortes de bonnes choses, que l'on vous souhaite, comme nous le souhaitons à nous-mêmes, parce que ce sont vraiment des joies extraordinaires que de pouvoir vivre avec cette espèce de surabondance de fruits.
Voilà, c'est en tout cas toute cette abondance de joie, d'amour et de paix, fruit de l'Esprit Saint, que nous souhaitons à chacun de vos couples, à chacune de vos familles. Soyez bénis et à très bientôt.
the extravagant love of God, the intimate friendship of the Holy Spirit.